Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Quand l'école est une fête et un retour à un quotidien serein pour ces enfants afghans, partis rendre leur visite à leur famille et qui se sont retrouvés coincés dans le piège de Kaboul aux mains des talibans, nous étions à leur côté ce matin quand ils ont retrouvé leurs copains de classe. C'est une facture qui va finir par peser très lourd, celle de l'énergie, l'électricité, l'essence et maintenant le gaz. Nouvelle hausse de 12,6% en octobre, du jamais vu sur un seul mois. Et au Royaume-Uni, les pénuries liées au Brexit n'arrange rien, les stations-service sont prises d'assaut. Dans ce journal encore, les pourboires payés en carte bancaire nets d'impôts, cela suffira-t-il à susciter l'envie pour un secteur qui manque de bras? L'enquête impossible sur l'explosion du port de Beyrouth au Liban. Et puis il n'y aura pas d'Instagram Kids pour les moins de 13 ans, le réseau social temporise face aux critiques pour l'instant seulement.
Et là, nous, dans un instant, le téléphone sonne avec vos questions, toujours ici à Berlin, sur notre bateau mouche qui s'appelle toujours le Sylvia, le long de l'Achepré. Vos questions sur ces élections allemandes qui se sont déroulées sans hystérie disent des choses quand même sur le désir de changement des Allemands, doucement mais sûrement. On reviendra sur la coalition si vous le souhaitez, on reviendra sur le couple franco-allemand si vous le souhaitez, nous reviendrons sur cette mutualisation de la dette qui a changé le logiciel allemand. Le numéro reste le même, le 01 45 24 7000 et à tout à l'heure.
France Inter. Quand ils n'ont pas répondu à l'appel le jour de la rentrée des classes et quand l'école s'est rendu compte qu'ils étaient restés coincés dans Kaboul aux mains des talibans, la mobilisation s'est enclenchée pour ces 24 enfants partis voir leur famille et qui n'arrivaient pas à rentrer. La mobilisation, les efforts de la France ont permis le retour de certains qui retrouvaient leurs camarades de classe ce matin. Forcément très émus, Maxime Glorieux de France Bleu Armorique à leur côté.
Sur la façade de cette école, on a enfin retiré la banderole de soutien.
Moi, j'aimerais bien comme une fête de l'école parce qu'ils sont revenus.
Toutes les élèves de la classe, ils sont aidés pour venir, ils ont fait des dessins, ils ont écrit un mot pour eux.
Des mots et des dessins pour Mariam, 11 ans, de retour de Kaboul.
Ils ont couru vers moi et ils m'ont tous fait un câlin. On dit qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan et tout.
La collégienne est venue chercher son petit frère de 4 ans à la sortie de l'école. Dans la poussette, un bébé de 6 mois, tous les trois sont restés bloqués près de Kaboul avec leur mère.
Les femmes pas sorties, et les femmes, les filles restent à la maison toujours. Nous aussi bloqués à la maison, pas marcher tout seul.
Le papa était resté à Rennes, trop risqué avec ses prises de position contre les talibans. Sa femme et ses enfants étaient à proximité de l'aéroport de Kaboul au moment de l'attentat. Un vol qatari leur a ensuite été interdit en l'absence du père. Mais mercredi, ils ont finalement atterri à Paris, la directrice de l'école, Nathalie Jacquet.
La maman me disait que voilà, l'émotion était grande et que le papa avait du mal à s'arrêter de pleurer tellement c'était une grande joie.
Une quinzaine de jeunes scolarisés à Rennes sont toujours bloqués avec leur famille à Kaboul.
L'activité de l'aéroport de Kaboul a repris grâce principalement à la technique du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie. La communauté internationale attentive toujours à la promesse des talibans de laisser partir toutes les personnes désireuses de quitter le pays. Ce sera le 6e mois consécutif de hausse. Et quelle hausse pour le prix du gaz ? Une augmentation de 12,6% des tarifs réglementés au 1er octobre. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Là encore, ça va sérieusement toucher le budget des familles. Quelques 3 millions de Français sont encore aux tarifs réglementés, d'autant que ça s'accumule ça.
Oui, c'est simple Hélène, le tarif réglementé augmente tous les mois depuis le début de l'année. La tendance ne fait que s'amplifier depuis l'été. Record annoncé donc au 1er octobre, après déjà plus 9% début septembre, plus 5 en août et plus 10 en juillet dernier. En tout, depuis le début de l'année, les prix ont déjà augmenté de plus de 50% selon la commission de régulation de l'énergie qui fixe les tarifs. La facture annuelle moyenne d'une famille chauffée au gaz est aujourd'hui de 1 482 € par an, soit un peu plus de 120 € par mois.
Et comment expliquer cette hausse, Fabien ?
Alors d'abord par des facteurs d'offre et de demande mondiale, ce qui fait dire aux régulateurs français qu'il n'y a pas vraiment de baisse des cours à espérer malheureusement avant le printemps. Temps où l'été 2022, l'économie repart fort, notamment en Chine, très forte consommatrice de gaz, ce qui limite mécaniquement les arrivées de méthanie en Europe et ce qui empêche donc de reconstituer les stocks mis à mal par l'hiver dernier, particulièrement froid. Toutefois, le prix du gaz ne pèse que pour 41% dans la facture finale que paye l'abonné au tarif réglementé. Il y a aussi notamment 23% de taxes sur lesquelles les associations de consommateurs appellent une nouvelle fois ce soir le gouvernement à faire un geste.
Gaz, électricité, électricité, essence, les prochaines factures seront douloureuses en France et dans toute l'Europe. 35 millions d'Européens sont déjà mis en difficulté par ces prix de l'énergie qui flambent, selon le commissaire européen Thierry Breton. Et c'est même pire pour celui qui a décidé de quitter l'Union, le Royaume-Uni. Car aux tensions sur les prix, encore plus fortement ressenties là-bas, s'ajoutent les pénuries liées en partie au Brexit. Et maintenant, la panique. Les stations essence se vident les unes après les autres. Jusqu'à 90% de pompes à sec dans les grandes villes, d'après l'agence Reuters. Richard Place a pris son tour dans une file d'attente à Brighton, dans le sud de l'Angleterre.
Des automobilistes qui font le tour de la ville à la recherche d'une station encore ouverte à Brighton, 200 000 habitants. Comme partout dans le pays, la même scène depuis 4 jours. Nigel vient de garer son van devant la pompe, enfin.
Je n'ai pas mis longtemps à la trouver, j'ai attendu une heure.
Juste à côté de lui, Francis, stoïque, il cherchait de l'essence depuis hier. Il a roulé longtemps avant de trouver cette oasis.
Mais c'est limité à 35 livres. Pas idéal pour moi. Je dois rouler plus de 300 km. Je vais conduire très prudemment.
Le gouvernement a beau multiplier les déclarations rassurantes. Il y a du carburant dans le pays. Ne vous précipitez pas dans les stations. Ne faites pas de stock. Ça ne marche pas. Et la panique crée la pénurie. Le phénomène est connu. Oui, les approvisionnements sont compliqués, faute de conducteurs poids lourds. Les causes sont multiples. La pandémie, beaucoup. La sortie du marché européen, un peu. Mais pour cet europhile qui fait enfin le plein, le raccourci est rapide, un seul responsable.
Yes, Brexit.
Tous ceux qui ont voté Brexit sont des idiots. Je ne suis pas en colère, je suis résigné.
Cette situation ne peut pas durer. Politiquement, elle pourrait coûter cher au gouvernement. Il étudie toutes les solutions possibles, comme mobiliser l'armée pour assurer les transports. Une idée repoussée, dit un ministre, pour le moment. Brighton, Richard Place, France Inter.
Des pénuries en France. IKEA, à son tour, reconnaît avoir des difficultés d'approvisionnement. 20% de produits manquants en rayon. Tout de même, estime la direction interrogée par les Échos, du petit matériel, des rideaux de douche, mais aussi pour une petite partie des meubles. Faut-il jouer sur les pourboires pour régler le problème de recrutement dans l'hôtellerie-restauration? Les pourboires payés en carte bleue qui seront désormais nets d'impôts, sans charge pour les employeurs, sans impôts pour les salariés, c'est l'annonce du jour. Et le patronat applaudit, pariant que ça va rendre le métier attractif, les syndicats plus sceptiques, craignant que cela n'incite pas les employeurs à augmenter les salaires. Annabelle Wanneck de France Bleu Touraine a fait le tour des terrasses Tourangelle pour sonder clients et restaurateurs.
Installée en terrasse, Justine tend l'oreille, elle qui paye toujours par carte bleue.
Moi je ne paye jamais en liquide et du coup je suis frustrée de ne pas pouvoir donner un pourboire. Et du coup c'est une bonne idée je trouve.
Une bonne idée pour ses 11 salariés, Baptiste Fouchard en convient. Mais pour le reste, le co-gérant du restaurant chez Madi, Place Plume, est sceptique. En tout cas, lui ne compte pas s'en servir comme argument pour recruter, même si les pourboires peuvent représenter chez lui plus de 10% du salaire.
Quand on recrute, on ne parle pas de pourboire. On leur dit la manière dont vont être divisés les pourboires, mais on ne joue pas sur le fait d'augmenter son salaire pour les pourboires parce qu'il n'y a rien de certain en fait.
Pour son collègue de la crêperie La Cour, juste à côté, l'enjeu est ailleurs. Antoine Boulet attend des gestes plus forts.
Nous, tous les gérants d'établissements que je connais, on est pour pouvoir payer plus nos salariés, sauf qu'aujourd'hui il y a tellement de charges qu'on ne peut pas se permettre de les payer plus. C'est-à-dire que là aujourd'hui un salarié coûte quasiment le double de ce qu'on lui paye.
Même chose au café Le Strapontin, la directrice Bérangère Riquier a eu bien du mal à recruter ses 7 salariés et elle ne voit pas comment cette mesure pourrait y remédier.
C'est encore des idées de personnes qui ne connaissent rien à notre métier et qui devaient faire des stages dans la restauration, ça ne leur ferait pas de mal je pense.
Tout en ajoutant, il va falloir faire quelque chose, sinon les bars et les restaurants vont fermer, dit-elle, parce qu'ils n'auront plus de personnel.
Le manque de main-d'œuvre. Le gouvernement s'y attaque également via la formation. 1,4 milliard d'euros supplémentaires pour former 1,4 million chômeurs en 2 ans. Une aide à l'embauche de 8 000 euros est aussi prévue dans le cadre de contrats de professionnalisation pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an. Plus d'un chômeur sur deux désormais. Et puis l'annonce de la défiscalisation des pourboires. C'est Emmanuel Macron qui l'a faite dans les allées du salon de la restauration à Bron, près de Lyon. Aujourd'hui, il y a eu le discours et puis le bain de foule ensuite. Et une nouvelle fois, après la gifle du mois de juin dans la Drôme, le chef de l'État a été visé par un jet d'œuf. Il a rebondi sur l'épaule du président sans se casser. Emmanuel Macron a à peine eu le temps de comprendre.
C'est arrivé de derrière.
Oui, mais c'est toujours comme ça que ça arrive.
C'était une prune ou
un bout de papier?
Je ne sais pas d'où ça vient.
C'est un petit jeu.
S'il a un truc à me dire, qu'il vient de me le dire.
qu'il vienne me voir.
Je crois que les services sont embarqués.
Il est parti. J'irai le voir après.
Emmanuel Macron qui tente d'interpeller le jeune homme, immédiatement maîtrisé. En effet, il s'agit d'un étudiant de 19 ans, totalement inconnu des services de police, précise ce soir les autorités. Une enquête ouverte pour violence volontaire aggravée et pour tenter de comprendre les raisons de ce geste. La pandémie de Covid et ses conséquences sur l'espérance de vie. Première étude qui compare la situation dans 29 pays. Aux États-Unis, les hommes ont perdu plus de 2 ans, en particulier chez les moins de 60 ans, alors qu'en France, ils n'ont perdu que 7 mois. Et la facture Covid des transports franciliens, qui va la payer ? Île-de-France Mobilité a décidé de suspendre ses paiements à la RATP et la SNCF. Sa présidente, Valérie Pécresse, réclame une subvention de 1,3 milliard d'euros pour compenser les pertes liées à la pandémie. En Allemagne, Mouti est donc encore loin d'être parti. Le parti d'Angela Merkel, la CDU, a subi un cuisant revers, arrivé deuxième derrière les sociaux-démocrates du SPD hier aux législatives. Mais d'un petit point seulement, alors son chef de file, Armin Laschet, compte bien lui aussi tenter de former une coalition. Lui est donc Olaf Scholz pour le SPD, arrivé en tête. Tout cela va prendre du temps. Angela Merkel pourrait bien devoir gérer les affaires courantes jusqu'à Noël. Et d'ici là, deux partis sont particulièrement courtisés. Les libéraux, arrivés quatrième, et les verts, troisième. La chef de file des écologistes, Annalena Baerbock, mesure l'enjeu.
Nous avons reçu un mandat clair, surtout dans les derniers mois, montrant que ce qu'attend notre pays, c'est un vrai renouveau pour l'avenir et que nous avons un devoir de modernisation qui nous est confié.
Annalena Baerbock, traduite par Mathilde Dehimi. Une longue période de tractation et d'incertitude s'ouvre donc en Allemagne. Et ça ne fait pas les affaires de la France, qui compte sur son binôme franco-allemand, d'autant plus que se profile la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, Maxence Lambrecq.
Emmanuel Macron veut changer l'Europe à partir du 1er janvier, obtenir des accords sur une régulation des géants du numérique, une taxe carbone aux frontières, un salaire minimum partout dans l'Union, sans gouvernement allemand. Mission impossible, l'Élysée doit patienter sans doute jusqu'à Noël, c'est le pire des scénarios, tout est suspendu, reconnaît un proche du président. On pensait au moins qu'il y allait avoir un leader de la coalition, SPD ou CDU. Où là, on ne sait pas de quel côté ça va basculer. Et pour Emmanuel Macron, ça change tout. Si le ministère des Finances, par exemple, revient au patron du Parti libéral, c'est son ambition, l'orthodoxie budgétaire sera de retour. On ne rigole pas avec la dette. Si la CDU décroche la chancellerie, Emmanuel Macron peut espérer avancer vers une défense européenne. Si les Verts entrent en force au gouvernement, la question du nucléaire posera problème. Alors le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, se rassure en rappelant que tous ont eu un discours pro-européen dans la campagne et pour peser dans les négociations, un premier instrument, l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui se réunira bien avant la constitution du gouvernement, sans doute dès novembre.
Maxence Lambrecq du service politique Elduisidvin est en Allemagne jusqu'à 20h. On retrouve Fabienne Sintès sur sa péniche juste après ce journal. L'actualité à l'étranger nous emmène aussi au Liban ce soir. Plus d'un an maintenant, après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts, l'enquête est semée d'embûches. Le Parlement refuse de lever l'immunité d'anciens ministres que le juge aimerait interroger. Les pressions politiques s'accumulent au point qu'il vient de suspendre l'enquête. Laure Stéphane est à Beyrouth.
Ce devait être une semaine riche en auditions à Beyrouth dans le cadre de l'enquête sur la double explosion au port. D'anciens militaires de haut rang et d'anciens ministres devaient être entendus par le juge Tarek Bitar, mais il n'en sera rien, l'enquête est temporairement suspendue. Le magistrat fait en effet l'objet de plaintes par d'anciens ministres soupçonnés d'implication appartenant à des camps politiques adverses. L'une de ces plaintes a été déposée devant la cour d'appel de Beyrouth, c'est celle qui a entraîné la suspension de l'enquête, l'autre devant la cour de cassation. Un journaliste libanais a en outre rapporté la semaine dernière que le magistrat avait reçu des menaces d'un cadre du Hezbollah. Cet énième blocage de l'enquête a un goût de déjà-vu. Le prédécesseur de Tarek Bitar, le juge Fadi Sawan, avait été démis en février dernier après avoir fait l'objet de plaintes d'anciens ministres qu'il avait inculpés. Comme un un message, pas question de toucher aux politiciens. Un avertissement auquel le juge Bitar a refusé de se soumettre. Sur Twitter, l'avocat Nizar Sarrié, dans l'organisation Soutien à les familles de victimes, dénonce la Ligue des partis politiques pour faire perdurer l'impunité, mal endémique au Liban. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
Un commissaire, deux commandants et un brigadier sont menacés de sanctions pour faute professionnelle ou des erreurs d'appréciation dans l'affaire Chahinez Daoud. C'est France Inter qui vous le révélait ce matin. Ce rapport de l'IGPN remis au patron de la police nationale près de 5 mois après le meurtre de la jeune femme, blessée par balle et brûlée vive par son mari. Un conseil de discipline devrait maintenant être convoqué. Facebook a finalement plié. Il n'y aura pas d'Instagram Kids, une version enfant de la célèbre application pour les moins de 13 ans, pour l'instant du moins. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Depuis l'annonce du projet il y a 6 mois, le géant Facebook est très critiqué.
Oui, l'annonce de Facebook et Instagram intervient pour tenter d'apaiser ces oppositions très nombreuses à Instagram Kids. Le projet d'une application dédiée aux jeunes publics a fuité par voie de presse en début d'année et a vite suscité une levée de boucliers. En mai dernier, les procureurs généraux de 44 États américains ont écrit à Facebook pour attirer l'attention sur la corrélation entre la hausse de la détresse psychologique et l'utilisation des réseaux sociaux chez les plus jeunes. Il y a 15 jours, des révélations du Wall Street Journal sur une étude commandée par Instagram ont relancé les critiques. L'étude montrait qu'une adolescente sur 3 estime que l'application est nocive pour son bien-être mental. Instagram suspend donc le développement de son application pour enfants, mais ne l'arrête pas. L'idée, c'est de prendre le temps d'en discuter avec les collectifs de parents et les experts pour prouver le bien fondé du concept, car l'entreprise n'en démord pas. L'argument de son patron, c'est que de toute façon, les enfants sont déjà sur Internet et mentent sur leur âge, et qu'il vaut mieux, dans ce cas, concevoir une application pensée pour eux.
En attendant, Facebook a d'ailleurs décidé de sécuriser l'appli existante. Depuis quelques semaines, les comptes des mineurs sont par défaut en privé et donc pas accessibles à n'importe qui. Instagram Kids en pause, c'est un sujet que vous développez aussi, Julien, sur franceinter.fr. Allez sur petit écran ou confortablement à tabler entre amis. Le rendez-vous football de la semaine, c'est demain, PSG Manchester City, deuxième journée de la Ligue des Champions. Mauvais souvenir pour les Parisiens, les Citizens les avaient éliminés en demi-finale l'année dernière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Messi est rétabli, Cédric Guillou.
Lionel Messi a repris l'entraînement hier au camp des Loges et ce matin encore, l'Argentin a participé tout sourire à la séance d'entraînement avec le reste de l'effectif parisien. Messi avait été touché au genou gauche, une contusion osseuse lors du match Paris-Saint-Germain-Lyon le 19 septembre. Il avait loupé le déplacement des Parisiens à Metz et le match de samedi face à Montpellier. Mais il sera donc à la disposition du groupe demain pour la réception de Manchester City, confirme l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Léo, il avance très bien. Il évolue, je pense qu'il sera dans l'équipe demain, je ne sais pas encore les joueurs qui vont débuter.
Pochettino qui n'a pas précisé si l'Argentin allait débuter la rencontre, mais il serait surprenant de voir Lionel Messi s'asseoir sur le banc des remplaçants, compte tenu de l'importance du match pour le Paris Saint-Germain.
Coup d'envoi de PSG Manchester City demain soir à 21h, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Sébastien Léas, c'est vous qui nous donnez des nouvelles de la météo demain, du soleil, mais un ciel quand même un peu voilé.
Oui, la perturbation qui a traversé le pays aujourd'hui et qui s'étend encore en ce moment entre le Grand Est, le Lyonnais et le Sud-Ouest va progressivement s'évacuer cette nuit par l'Est. Cette perturbation laissera un temps calme pour demain, mais aussi beaucoup d'humidité sur le Nord-Est et au Sud de la Garonne. Il faut donc s'attendre à de nombreuses grisailles matinales sur le bassin aquitain et entre le Grand Est, le Lyonnais et le Dauphiné. Ailleurs, le soleil sera un peu atténué par un voile de nuages élevé et progressivement, les grisailles vont se dissiper et c'est ce soleil voilé qui prendra le relais sur les Alpes et le Jura. L'après-midi sera quand même plus nuageux. Et puis les nuages vont aussi s'accumuler sur le nord-ouest demain, puisqu'une nouvelle perturbation sera en approche. Des averses sont attendues sur la Bretagne et la Basse-Normandie. Elles seront quand même plus rares entre les Pays de la Loire et le Boulonnais.
Et l'ambiance est un peu plus fraîche, Sébastien.
Oui, la baisse des températures amorcée aujourd'hui sur le nord-ouest va se généraliser demain. L'après-midi, les maximales seront même souvent sous les valeurs de saison. 18 degrés à Nancy, 19 degrés à Quimper, Amiens et à Rouen, 20 degrés pour Quimper, Paris, Colmar, Dijon, Tours ou encore Clermont-Ferrand. On attend 21 degrés à Nantes, 22 degrés à Grenoble et Bayonne, 24 degrés à Toulouse, Montpellier et à Grasse et 27 degrés pour Perpignan, La Ciotat et Bastia.
Sébastien Léas de Météo France.